Bonjour à tous et bienvenue dans Carrefour Sciences et Santé. Maïlys Hegel au micro. Cette semaine, nous parlons à nouveau des initiatives mises en place localement en Afrique pour promouvoir la technologie numérique. Nous irons à Ouagadougou, à Lomé, à Yaoundé, à Abidjan et à Bamako, à la rencontre de ces jeunes ambitieux qui construisent des laboratoires de fabrication. On appelle ça des Fab Labs.
C'est dans ces espaces qu'on retrouve toutes les idées, c'est dans ces espaces qu'on retrouve tout type de personnes, et c'est dans ces espaces que les choses se font réellement. À pouvoir ouvrir encore au maximum de personnes, à pouvoir changer les mentalités, je pense que la solution, elle est là.
C'était Gildas Gwela, président de Ouagalab au Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est ces fameux Fab Labs ? Ce sont des laboratoires de fabrication numérique en libre accès où chacun peut venir travailler grâce à du matériel prêté gratuitement. Les Fab Labs sont des espaces de rencontre et de création collaborative avec pour optique le partage des savoirs. Le but est d'apprendre à fabriquer soi-même des objets. On appelle cela le « do it yourself ». Et souvent, les objets fabriqués sont recyclés. C'est le cas par exemple du Fab Lab d'Abobo, une commune populaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Obin Gwako, le président de ce Fab Lab, appelé Babylab, nous explique.
Ça concerne les projets Jerry. Les projets Jerry consistent à faire de la récupération auprès de structures ou organisations ou entreprises qui ont, entre guillemets, des ordinateurs jetés à la poubelle. Donc on récupère ces ordinateurs, on teste les pièces qui marchent, puis on les reconstitue dans un bidon de 20 litres. Donc le bidon de 20 litres fait office d'unité centrale.
C'était Obin Gwako, le président du Babylab d'Abobo en Côte d'Ivoire. Recycler des ordinateurs n'est pas propre au Fab Lab d'Abidjan. Au Togo aussi, au sein du Fab Lab Welab, on construit des ordinateurs à partir de pièces usées. C'est le projet du Jerry Clan. Pour en parler, c'est Namé Kofi, le fondateur du Welab de Lomé, au Togo.
Alors le projet Jerry, c'est un projet qui a été développé par des étudiants à l'ENSI. C'est une école de design en France. C'est un projet qui était pensé donc quand même pour les pays du Sud. Alors le principe est simple. Vous savez, quand vous avez un ordinateur qui tombe en panne, ce n'est pas... systématiquement tous les éléments qui sont morts à la fois. C'est une seule pièce sur l'ensemble qui est défectueuse. Donc l'idée, c'est de prendre plusieurs ordinateurs qui sont en panne et sélectionner ceux qui marchent encore dans ce lot d'ordinateurs pour recomposer un ou plusieurs ordinateurs qui, eux, seront fonctionnels. Sauf qu'on recompose dans un contenant qui n'est plus le contenant classique, c'est-à-dire un châssis ou un caisson en métal, mais un bidon, d'où le nom Jerrycan. Donc on recompose un ordinateur à partir, en quelque sorte, d'éléments recyclés dans de vieux ordinateurs dans un contenant qu'on peut décorer. Donc c'est aussi un ordinateur dont on s'approprie l'apparence, on peut faire un peu de couture, on peut graver des choses, etc. Donc c'est un projet de démocratie technologique au sens où ça démystifie l'outil, et puis c'est surtout un projet avec une dimension très esthétique, puisque vous faites votre propre ordinateur comme vous le souhaitez. Le projet Jerry Clan est un projet, comme je vous l'ai dit, de solidarité numérique en quelque sorte. Donc c'est un projet en open source dont l'objectif est de vulgariser cette capacité de démonter des machines et d'en fabriquer soi-même. Donc c'est pas un projet avec une visée commerciale hein, à la base.
C'était Sename Kofi, le fondateur du Welab de Lomé au Togo. Il y a donc une véritable conscience écologique derrière ces projets. Gildas Gwela, le président de Ouagalab, le Fab Lab du Burkina Faso, témoigne lui aussi.
Oui, il y a une très grande démarche pour lutter contre la pollution et lutter aussi contre cette fracture numérique. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un pays peu avancé. Et nous sommes dans un pays où quand on prend le SMIC, on est à moins de 50 euros. Donc la jeunesse ne peut pas se permettre de pouvoir s'acheter des ordinateurs. Donc nous, notre démarche aujourd'hui, on voit que le numérique est une des ressources qui est vraiment équitable dans le monde parce que c'est une des ressources où on peut l'utiliser pour pouvoir emboîter le développement durable. Donc on s'est dit pourquoi pas focaliser notre démarche sur la lutte contre cette fracture numérique et aussi la récupération de tout ce qui est déchets électronique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des pays africains où il y a pas mal de vieux matériels numériques qui redescendent dans nos pays sous prétexte que ce n'est plus réutilisable.
C'était les explications de Gildas Gwela depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Les personnes qui travaillent dans des Fab Labs sont très souvent des bénévoles. Ce sont des informaticiens, des ingénieurs qui veulent mettre leur talent au service de la société. Mettre en place un Fab Lab est un vrai parcours du combattant. Nous retrouvons Gildas Gwela au Burkina Faso qui nous explique les prémices de Wagalab.
Wagalab, c'est un espace de travail collaboratif, un espace de prototypage qui a été initié en 2011 suite à un forum qu'on appelle Innova Africa. De 2011, avec des amis, on était 6 personnes, on a décidé de mettre en place un espace, permettre à la jeunesse de se retrouver pour travailler, de se retrouver pour discuter, de se retrouver pour innover et en même temps d'emboîter la culture de l'entrepreneuriat social pour essayer de répondre à un défi qui nous touche. Donc depuis 2011, nous avons d'abord démarré par un espace itinérant parce qu'on n'avait pas d'espace physique où nous avons commencé à faire des formations dans des universités, dans des espaces ouverts, dans des espaces communautaires pour montrer un peu comment est-ce que la culture du logiciel libre peut être un des atouts où l'Afrique peut s'appuyer dessus pour pouvoir avancer et pouvoir accroître cette économie numérique. Donc après ces 2 années d'itinérance où on s'est déplacé un peu partout, nous avons fait la connaissance des plateformes de crowdfunding qui existent et nous avons lancé au fait une opération de crowdfunding sur KissKissBankBank pour demander à la population et au monde entier de nous aider à monter notre propre espace parce que le terrain de Chine, c'est un acquis, c'est un terrain familial dont le papa a bien voulu mettre ça à notre disposition pour que nous puissions l'utiliser comme nous le pouvons. Nous avons lancé une opération de crowdfunding qui nous a permis de récolter un peu de fonds et construire notre propre espace. Par rapport à cette opération de crowdfunding, nous l'avons lancée juste c'était pour réaménager un peu l'espace. Et après, nous nous sommes dit que vu que c'est un espace de travail collaboratif, vu que c'est un espace d'intelligence collective, pourquoi pas construire l'espace par nous-mêmes. Donc nous avons été là les personnes qui ont dû construire l'espace pour nous permettre d'utiliser le peu de fonds que nous avons et avoir un espace assez conséquent pour pouvoir travailler.
Qui sont les personnes qui font partie de Wagalab?
Il y a 12 membres dans le bureau. Et nous avons aussi des membres qui viennent juste pour des formations, pour partager leur expérience, pour apprendre des autres et pour travailler sur des thématiques et des projets que nous développons. Sinon, les personnes ressources, c'est 12 personnes qui font partie du bureau. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui, à travers leur activité de gauche à droite, peuvent pouvoir soutenir l'espace pour que ça puisse continuer.
Et donc, quel est le type de personne qui vient vous voir à Wagalab?
Il y a des novices qui viennent pour voir et voir dans quelle mesure ça pourra leur intéresser. Il y a d'autres aussi qui sont intéressés, mais qui n'ont pas cette capacité de pouvoir s'acquérir du matériel et qui veulent aussi profiter de ces espaces qui existent là pour pouvoir augmenter leurs compétences et pouvoir embrasser la culture du numérique et pouvoir bénéficier aussi du matériel numérique mis à leur disposition et continuer un peu à aller un peu dans le sens du numérique.
Sur votre site internet, pour vous présenter, vous écrivez être une communauté active dans la transformation sociale de l'Afrique à travers l'innovation technologique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie pour vous?
À travers la transformation numérique, ça signifie vraiment beaucoup pour nous parce que, comme je le dis, nous avons aujourd'hui un des matériaux dans le numérique qui est le téléphone portable, qui est vraiment en croissance dans nos pays africains où tout un chacun, on a 90% de la population qui ont des téléphones portables, mais on a 2% de la population qui a accès à Internet chaque jour. Donc ça veut dire que l'Internet ne peut pas être une cible, mais plutôt utiliser l'autre cible qui est le GSM. Donc ça veut dire que nous développons des applications GSM pour pouvoir toucher la masse, pour pouvoir envoyer l'information jusqu'aux bénéficiaires qui est dans une zone neutre. Et c'est des applications qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Si je prends l'exemple des cas de maladie, nous développons des applications SMS qui permettent d'alerter ces cas de maladie qui sont au fait des épidémies qui touchent un peu. Nous développons aussi des applications par rapport à la cartographie sur la malaria qui permet de digitaliser les zones à risque de la malaria et utiliser l'outil qui est le GSM pour alerter et sensibiliser la population afin qu'ils adoptent des modes de vie à assainir leur propre espace et des modes de vie aussi à éviter l'automédication. Et quand on parle aussi dans le sens de l'agriculture, parce que nous sommes dans un pays à 80% agriculteurs, nous développons aussi des applications SMS qui permettent aux agriculteurs qui sont dans les zones reculées de ne plus se faire arnaquer par les prix des différents denrées alimentaires. Ça veut dire qu'ils reçoivent par SMS les prix des différents denrées alimentaires. Ils reçoivent aussi par SMS la pluviométrie pour leur permettre de savoir à quel moment ils doivent cultiver. Et aussi, ils peuvent poster aussi à travers leur CMGSM la quantité de produits dont ils ont pour mettre à la disposition de toute personne qui voudront l'acheter. Donc c'est un peu dans ce sens qu'on parle de la transformation sociale, pour dire que nous utilisons et l'outil numérique le plus adapté dans notre contexte pour faciliter le mode de vie de nos citoyens.
Et vous faites tout ça bénévolement ?
Oui, jusqu'à présent, on le fait bénévolement. Et nous avons adopté cette stratégie depuis 2011. Pourquoi ? Parce que quand nous avons démarré même le Vagalab, ça veut dire que nous sommes allés même pour rencontrer des acteurs vraiment percutants dans ce pays pour essayer de présenter un peu notre initiative. Et après, on a vu que ça a pris une tournure qui n'était pas la tournure que nous avons voulu marcher dessus. Parce que c'est des personnes qui accepteront automatiquement nous accompagner, mais imposer leur idéologie et leur démarche. Tout en sachant que tout ce qui est problème qui nous touche actuellement, ils sont aussi responsables. Donc ça veut dire que nous allons aller dans un sens d'avoir un gain personnel que dans un sens de pouvoir ouvrir un esprit d'univers et de responsabilité collective. Et notre démarche, c'est de montrer que nous pouvons partir de zéro jusqu'à atteindre quelque chose et montrer aussi à cette jeunesse qu'on ne doit pas forcément s'asseoir ou attendre des financements qui doivent venir de gauche à droite avant de réaliser des choses. Il faut réaliser ce que tu peux réaliser avec ce que tu n'as pas. Et quand tu auras un soutien, tu pourras encore faire mieux. Donc c'est un peu cette démarche que nous avons adoptée pour montrer que voilà, il faut arriver à fonctionner déjà sans financement. Et quand tu arrives à fonctionner sans financement jusqu'à un certain potentiel, quand tu as du financement, ça te permet d'aller encore plus loin au fait.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle justement la démarche « do it yourself » ?
Oui, c'est ça qu'on appelle la démarche do it yourself. Et c'est justement cette démarche que nous voulons adopter parce qu'en Afrique, vous voyez, on a une population qui est vraiment accentuée sur la jeunesse. Et une jeunesse qui attend aujourd'hui des aides de gauche à droite pour pouvoir réaliser des choses. Alors que si on se met ensemble, si on commence à réfléchir, si chacun pouvait résoudre un petit problème, on allait arriver à un certain moment où on n'a pas besoin forcément d'attendre que ça vienne d'ailleurs, mais on peut déjà commencer à réaliser des choses en tenant compte de nos réalités, en tenant compte de notre environnement. Et quand ça va venir d'ailleurs, tu pourras encore aller plus vite. Il y a deux manières. Tu peux réussir ta vie ou tu peux réussir dans la vie. D'accord ? Donc ça fait deux choses très différentes. Et tu peux réussir dans la vie, ça veut dire que tu peux avoir tous les milliards de ce monde, mais quand tu vas partir réduit. Et ton existence n'aura pas de sens tant que tu ne laisses pas une trace. Et réussir sa vie, pour moi, c'est quoi ? C'est arriver à tracer une route et après laisser cette route pour d'autres personnes qui vont utiliser ça pour pouvoir grandir. Donc nous sommes en train d'utiliser la deuxième démarche qui est réussir notre vie, dans le sens où nous voulons d'abord arriver à conscientiser cette jeunesse africaine, parce que je pense que le véritable problème, c'est ça. Ce n'est pas le manque de potentiel, c'est vraiment pas le manque de moyens. C'est ce manque d'envie de réfléchir et de pouvoir tracer une route afin que d'autres personnes puissent les utiliser.
C'était Gildas Gwela qui nous parle de la démarche de Wagalab, le Fab Lab du Burkina Faso. Vous êtes dans Carrefour Sciences et Santé sur VOA Afrique et nous parlons des Fab Labs en Afrique, ces lieux ouverts où tout le monde peut venir pour fabriquer des objets numériques par exemple. Ce sont des initiatives philanthropes qui prônent l'accès aux nouvelles technologies pour tous. Nous retournons en Côte d'Ivoire avec Obin Gwako, le président du Babylab à Abobo.
Le Babylab est un espace de libre fabrication numérique et d'utilisation de logiciels libres. Donc l'espace a été fondé par cet ami informaticien depuis l'année 2014. Donc l'idée au fait est de prôner un modèle de développement qui part aussi des quartiers populaires. Donc on implique les enfants dans la démarche. Les enfants de 8 à 15 ans sont initiés au cours d'informatique, à l'électronique et puis à la robotique. Donc, à côté de ça, on a des ateliers de découverte de logiciels libres que nous organisons dans notre espace qui est placé sous le concept de samedi du libre. Donc chaque dernier samedi de chaque mois, on essaie d'organiser des rencontres, ce sont des conférences, des débats où on invite un expert ou bien quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine des logiciels libres et de l'open source pour animer un atelier avec d'autres personnes. Donc on fait du recyclage des déchets plastiques pour faire de l'impression 3D, c'est un de nos projets majeurs, ainsi que le projet des enfants qui est dénommé Kid Lab. Donc voilà en bref ce que fait Babylab. Donc on a des ateliers pratiques de bidouille électronique, de prototypage, faire du recyclage des déchets informatiques pour concevoir des ordinateurs dans des bidons de 20 litres, etc. Donc c'est ce que nous faisons à Babylab.
Et comment est-ce que vous vous financez?
Babylab est une initiative bénévole depuis 2014. Donc on fonctionnait sous forme de cotisation des différents membres fondateurs pour organiser les ateliers et autres. Donc c'est jusqu'en septembre de l'année dernière, on a reçu la visite de la ministre française en charge du numérique, Axel Lemay, dans notre espace. Suite à cela, le gouvernement français nous a accordé notre première subvention exceptionnelle de 10 000 euros. Donc, jusque-là, c'est sur ce front que nous fonctionnons pour encore redynamiser nos activités, acheter de nouveaux équipements et puis agrandir l'espace.
Quelles sont les valeurs de votre Fab Lab? Qu'est-ce que vous prenez?
Ce que nous prenons le plus, c'est un modèle de développement qui part des quartiers populaires. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, la plupart des zones défavorisées, lorsqu'on va mener des activités qui concernent en grande partie la population, ces activités sont tenues dans les espaces où il y a beaucoup plus d'infrastructures, pendant que la cible se trouve dans les quartiers populaires. Donc nous, pour nous, en positionnant notre Fab Lab dans un quartier populaire comme Abobo, qui n'a pas très bonne réputation, l'idée est de faciliter l'accès à une éducation au numérique de proximité pour ces populations. Donc, notre philosophie, sinon notre vision, c'est de prendre un modèle de développement qui prend en compte les personnes qui vivent dans les zones défavorisées.
Pourquoi faire tout ça? Quel est le but?
Aujourd'hui, le numérique est l'un des domaines qui crée le plus de valeur ajoutée dans n'importe quel contexte. Donc, en favorisant cet accès à une éducation numérique, on permet à ces personnes-là de pouvoir dès maintenant se prendre en charge par les opportunités que offre le numérique à travers ses nouveaux métiers, ses nouveaux modèles économiques, etc. Et de plus encore, nous sommes très passionnés de la technologie. Pour nous, ce que nous savons, il serait quand même idéal de transmettre cela à d'autres personnes dans un environnement où c'est absent. Et puis changer quand même la réputation de la commune, dit désormais qu'en venant à Abobo, on aura la possibilité de trouver des personnes qui puissent avoir des idées qui aussi changent le monde. Faire des quartiers populaires ou bien zones défavorisées, des pôles aussi d'innovation technologique. D'ici 2050, tout le monde sait que l'Afrique est le continent où il y aura beaucoup de main d'œuvre jeune. Donc déjà, pour préparer les enfants à la prochaine révolution numérique qui est déjà en marche dans les grandes nations, pour nous, c'est une manière au fait de former les jeunes dès maintenant, de telle sorte qu'on puisse affronter les défis de développement prochains sur le continent.
Merci pour toutes ces explications, Obin Gwako, président du Babylab d'Abobo, près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. VOA Afrique depuis Washington, vous êtes dans Carrefour Sciences et Santé. Et maintenant, départ pour le Togo, à Lomé, pour découvrir un autre type de Fab Lab. Sename Kofi est le fondateur du WeLab. Il est architecte et anthropologue de formation. Pourquoi avoir créé un Fab Lab au Togo ?
J'ai voulu imaginer comment la ville pouvait se produire avec les citadins eux-mêmes, sans que ce soit toujours le décideur ou l'urbaniste qui prescrive la ville. Et donc mes recherches m'ont orienté vers les Fab Labs. Ils sont des dispositifs qui, en tout cas sur le papier, sont censés être ouverts à tout le monde, avoir de la technologie disponible que les gens peuvent donc s'approprier pour essayer de fabriquer tout ce qu'ils veulent. Donc je me suis dit, mettre des Fab Labs dans la ville pouvait aider les citadins à augmenter leur niveau de compétence et à se retrouver en capacité de penser et de produire eux-mêmes la ville. C'est donc un projet urbain à la base qui s'appelle UpCité, donc un projet de ville vernaculaire qui nous a amené à créer, à penser au début au réseau de lab, pour transformer le visage de la ville et donc créer WeLab comme modèle de ce réseau de lab.
Quel est le matériel dont vous disposez au Fab Lab et Sur quoi travaillez-vous en ce moment, par exemple?
Alors, c'est un lab très, très, très modeste, principalement parce que presque entièrement autofinancé. On a tout ce qu'il faut pour faire du petit bricolage, c'est-à-dire marteau, tournevis, un petit étau, etc. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'imprimantes 3D, mais on en fabrique nous-mêmes. Donc on a deux ou trois imprimantes 3D classiques, une RepRap, une Ultimaker, une Delta, et puis une bonne demi-dizaine d'imprimantes 3D Wafat, qui sont les imprimantes que nous produisons nous-mêmes. Donc le lab travaille sur tout type de projet de fabrication pour les gens qui passent, parce que c'est un lieu ouvert ou quelqu'un qui, je sais pas, a cassé sa monture de lunettes, par exemple, peut venir et essayer avec l'outillage sur place d'essayer de réparer sa monture de lunettes. Donc, il y a des projets un peu qui nous échappent, qui sont portés par les gens qui sont de passage, mais il y a des projets que nous développons nous-mêmes parce que ce lab, une de ses spécificités, c'est que c'est porté par une communauté. Donc, il y a un groupe de jeunes, une trentaine d'à peu près, qui sont, eux, des pensionnaires du lieu. C'est les jeunes les plus assidus qui s'impliquent dans des projet Made in Wellab. Et ces jeunes-là développent donc un certain nombre de projets en rapport avec la ville, parce que c'est quand même notre logiciel de transformer la ville, dont des projets qui ont besoin de fabrication. Notre spécificité, c'est qu'on est vraiment, pour le coup, un lab de quartier. Donc, il y a beaucoup de gamins et de gamines qui sont de l'environnement, de deux, trois pâtés de maison autour, qui sont pas forcément geeks, mais qui viennent là parce ils savent qu'il y a une émulation, des jeunes se retrouvent de temps en temps, il y a beaucoup d'événements, on lance des projets, on découvre des choses, etc. Et puis, on a une cible un peu plus tech, mais pas tech au sens élitiste. On n'a pratiquement pas d'ingénieurs ou de développeurs dans le groupe. C'est plus des gamins qui sont souvent sur Facebook, Twitter, etc., qui eux viennent d'un peu plus loin parce qu'ils ont eu l'information grâce aux réseaux sociaux.
Quelles sont vos ambitions à long terme? Qu'est-ce que vous aimeriez montrer peut-être avec ce Fab Lab?
Il y a plusieurs choses. Donc Wellab a été pensé en fait au service de la ville. C'est un projet en quelque sorte, on peut dire, de Smart City. L'idée, c'est d'utiliser des laboratoires pour transformer l'environnement. Donc Wellab travaille sur un rayon d'un kilomètre autour. Tout ce qu'on fait, c'est censé impacter ce territoire d'un kilomètre de rayon autour de Wellab. Donc on développe des projets sur toutes les thématiques urbaines, sur la question de l'agriculture urbaine, sur la question de l'énergie, sur la question de la gestion des déchets. Donc les projets les plus intéressants, on essaie d'en faire des startups. Donc on est passé de Fab Lab à un incubateur d'entreprise. Alors pas un incubateur orthodoxe classique, mais un incubateur toujours dans le même esprit, un peu bricolé, etc. Mais l'idée, c'est donc que ce lab-là impulse, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de business, qu'on en crée un autre à 2 km qui lui aussi aura en charge de son environnement proche et qui est comme ça à une échéance plus ou moins longue, un réseau de lieux qui apparaissent dans la ville, dont chacun transforme son environnement et donne naissance à des business qui permettent donc à la population du quartier qu'on a choisi pour tester cette utopie-là d'avoir une petite économie de proximité qui se développe et qui est sublimée en quelque sorte par ces nouveaux outils numériques.
C'était Sename Kofi, fondateur du Wellab de Lomé au Togo. Cette envie de faire bouger les choses, c'est l'ambition commune de tous ces Fab Labs francophones. On écoute maintenant Moussa Seydou depuis Bamako au Mali. Il a mis en place avec son équipe de 5 personnes un workshop pour aider des artisans locaux dans un premier temps et pour permettre à la jeunesse malienne d'avoir un meilleur accès à la technologie dans un second temps. Moussa Seydou nous explique.
Alors, notre ambition, c'est de pouvoir prouver aux jeunes Africains, aux jeunes Maliens, qu'ils peuvent gagner leur vie ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, en fait, d'aller en Occident, de risquer leur vie, si on peut se permettre de le dire, pour aller en Occident, alors qu'il y a du travail à faire ici. Il y a du travail à faire, peut-être qu'il y a faute de moyens, peut-être qu'il y a faute d'idées, peut-être qu'il y a manque d'éducation, peut-être qu'il y a manque de soutien, mais avec un Fab Lab, juste un Fab Lab, qui a différents départements concernant plusieurs secteurs de l'artisanat surtout, pas de la technologie, peut-être de la haute technologie et tout. On est dans un pays qui n'est même pas à 80% couvert par l'électricité. Donc parler de technologie, de haute technologie serait un rêve pour l'instant. Mais les petits objets d'art, les meubles et ensuite les objets que l'on utilise dans la maçonnerie, dans l'agriculture, les petits besoins de la vie de tous les jours n'ont pas besoin de venir de l'Occident. On peut, si on se creuse un peu la tête, on peut les faire ici. C'est juste pour pouvoir prouver cela aux gens et être, si vous voulez, son of an incubator, c'est-à-dire pouvoir créer des jobs, pouvoir créer des secteurs peut-être qui n'existent même pas ici à travers les matières premières concernant l'agriculture, le textile qu'on a surtout. Et de là, pouvoir prouver aux jeunes que vraiment c'est possible de le faire même ici.
Vous venez d'écouter Moussa Seydou depuis Bamako au Mali. Mark Twain a dit: Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est aussi la philosophie de ces laboratoires de fabrication. En partant de rien, on peut arriver à tout. C'est sur cette note optimiste que l'on se quitte. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Maïlys Aigle au micro pour Carrefour Sciences et Santé sur VOA Afrique.